我们稍微就是可以用这个功能，我们在开始做工程，所以我们还有些猫腻。À cause de la rigidité du climat qui a préservé les océans. Donc c'est très rare qu'on ait encore ces documents de la pratique, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas très couramment utilisés dans les romans. Donc les bibliothèques des athées existent en Égypte romaine et uniquement dans cette province. En Égypte romaine, le prêt est massivement non professionnel. Il existe des banques privées, mais elles ne prêtent pas l'argent. La principale fonction de ces banques, c'est le dépôt et le service de paix. Donc c'est des particuliers qui prêtent à d'autres particuliers. Le taux d'intérêt ne fluctue quasiment pas pendant 3 siècles, c'est toujours 12%. Et c'est le maximum légal autorisé. Et la problématique essentielle de mes recherches, c'est comment un débiteur et un créancier se sont rencontrés et ont décidé de faire affaire. Donc j'ai ajouté une définition du marché du crédit qui est celle qu'on trouve dans les livres de Postelbine, Hoffmann et Rosenthal, une définition néo-institutionnaliste. Donc ce que je cherche à faire, c'est reconstituer l'organisation et le fonctionnement du marché du crédit en suivant sur environ 4 siècles les évolutions qui sont dues principalement à des changements institutionnels et aussi aux perturbations monétaires. Aujourd'hui, comme la séance est consacrée au crédit rural, je parlais de deux villages pendant environ 2 siècles. Ces deux villages d'une région qui s'appelle le Fayoum en Égypte, et il s'appelle Teptunis et Sophon Fayoum. Je parle de ces deux-là parce que tous ceux qui ont livré la documentation financière à plus avant. Je vais parler d'une période qui va de 30 avant Jésus-Christ, qui est la conquête de l'Égypte par Rome, jusqu'à 165 après Jésus-Christ environ, qui est la date de la peste sous Corée, qui change pas mal de choses. Dans ces deux siècles environ, je distingue deux périodes. La première va de 30 avant Jésus-Christ jusqu'à 69 après Jésus-Christ, et la seconde va de 69 après Jésus-Christ à 165 après Jésus-Christ. Donc dans la première période, comme dans la seconde, d'ailleurs, le prêt est une activité quotidienne extrêmement répandue. Enfin, quand on a la chance de retrouver des registres de notaires qui est classé en Égypte, ça représente environ 30% des transactions. C'est extrêmement important. Les prêts d'argent, on trouve une moyenne d'environ 170 drachmes. La drachme, c'est la monnaie utilisée en Égypte, et une médiane de 104 drachmes. Durant cette première période, encore, la plupart des prêts ne sont pas garantis. Ni par une caution personnelle, ni par une sûreté réelle. Et toutes les transactions se font au sein des deux villages. Teptunis, on emprunte en tout cas des gens de Teptunis, et à ce compte avec les autres, on emprunte en cas des gens de Cosmopolis. Donc on ne va jamais dans le village d'à côté, on ne va jamais dans la ville dont dépendent ces deux villages. Donc en gros, on a des villageois qui prêtent à d'autres villageois, des sommes qui sont importantes, mais pas non plus énormes, et c'est des prêts qui ne sont pas garantis. Donc, j'interprète ça comme le fait que pendant cette première période, le marché fonctionne essentiellement sur l'interconnaissance personnelle au sein du village. C'est-à-dire que ça repose sur la réputation financière des débiteurs et des créditeurs qui habitent dans le village. Les gens se connaissent suffisamment bien et les sommes ne sont pas suffisamment importantes pour qu'il y ait besoin d'un système de garantie plus élaboré. Ceci dit, l'interconnaissance personnelle ne signifie pas que les prêts sont gratuits. Là encore, c'est des prêts de 12%, donc les gens ne sont pas chanceux, mais toujours au taux de 12%. Et donc ici, c'est le lien social et les liens sociaux au sein du village qui est le support de la transaction. C'est ça qui permet que la transaction s'éternise. Donc dans cette première période, ça fonctionne essentiellement comme ça. Avant 69 après Jésus-Christ, ça fonctionne comme ça, et c'est fondé sur l'interconnaissance personnelle. Les rares prêts, il y en a quand même, qui sont garantis, sont rédigés comme des ventes fictives, et qui sont à peu près le document 2 que tu as dans tes documents. Il y a un contrat de prêt et un contrat de vente. Et en gros, on vend, le débiteur vend la garantie au créancier, et on fait l'inverse quand on a remboursé. Donc c'est une garantie qui est très solide pour le créancier, parce qu'il acquiert la propriété de la chose garantie. Évidemment, pour le débiteur, c'est très lourd parce qu'il perd la propriété. La deuxième période va de 69 après Jésus-Christ à 165. Et là, il se produit trois changements importants. Le premier de ces changements, c'est que les sommes prêtées sont multipliées par 3. Là où on peut le mesurer, ça s'est fait qu'il y a des, enfin, en une trentaine d'années, on constate que les sommes sont multipliées par 3. Le deuxième changement, c'est que les marchés du crédit des deux villages s'ouvrent. C'est-à-dire qu'on ne se contente plus d'emprunter au sein du village. Ils traitent et ils empruntent à des habitants des villages voisins. Et aussi, ils vont emprunter à des habitants de la capitale du Nord. Donc, il y a une ouverture des deux marchés du crédit villageois vers les villages périphériques et surtout vers la capitale du Nord. Le troisième et dernier point, c'est que les prêts sont beaucoup plus fréquemment garantis qu'avant. La plupart du temps, quand ils sont garantis durant cette deuxième période, ils sont garantis sur des terres ou sur des maisons. Et pendant cette deuxième période aussi, les ventes fictives qui garantissaient les rares prêts qu'ils étaient disparaissent quasiment complètement, quelques années après 60 ans. Bon, ces trois changements sont évidemment liés. On comprend bien que plus les sommes sont prêtées, plus les sommes prêtées sont importantes, pardon, plus il y a besoin de garanties solides. Et de la même manière, on comprend que certains villageois aillent à la ville pour trouver des sommes plus importantes, parce que c'est qu'il y a des gens plus riches. Ce qu'on peut se demander, c'est pourquoi ils ne le faisaient pas avant. Et la raison principale, je pense, de changement, c'est la création de l'institution de suivi d'intervention, qui est la bibliothèque des athées. En 69, donc, est créée une institution qui améliore considérablement fonctionnement du marché du crédit, c'est la bibliothèque des athées. Pour comprendre son fonctionnement, qui est assez élaboré, il faut donner quelques explications sur le notariat et la manière dont on rédige un contrat privé. En Égypte romaine, il y a des bureaux notariaux dans chaque village. Même des villages de 700-800 habitants ont un notaire. En général, ce sont des concessions qui sont affermées par l'État à des individus qui payent quelque chose et qui deviennent notaires pour un an ou plus. Tous les contrats qui sont rédigés par ces notaires-là ont une valeur publique et les contrats sont enregistrés. Il y a un système d'enregistrement particulièrement élaboré parce que tous les notaires sont tenus d'enregistrer tous les 4 mois, tous les contrats qu'ils ont faits à une autre bibliothèque et à un autre fichier au sein de chaque région d'Égypte. Et tout ça remonte encore jusqu'à Alexandrie, qui est la capitale de la Corée. Donc c'est quelque chose de... Enfin, pour l'Antiquité, c'est quelque chose de particulièrement important. Et je ne connais pas d'équivalent nulle part dans le monde. Et en 69, le préfet d'Égypte décide d'ajouter un nouveau rouage au système, qui est la bibliothèque des athées. Donc on connaît fonctionnement par deux textes fondamentaux. Dans le premier texte, c'est un édit du préfet d'Égypte qui ordonne deux choses essentielles. Dans le premier point, ça concerne la déclaration des droits de propriété des particuliers. Tous les propriétaires doivent faire enregistrer leurs droits de propriété sur des terres ou sur des maisons. Et tous les créanciers doivent faire enregistrer leur bibliothèque sur des terres ou sur des maisons. Les femmes doivent indiquer les droits qu'elles peuvent avoir sur les biens de leur mari et les enfants doivent indiquer les droits qu'ils peuvent avoir sur les biens de leur mari. Donc, à partir de ce moment-là, en Égypte, on a une publication qui précise que possible des droits de propriété des gens sur la terre et sur les maisons. Et toutes ces déclarations sont compilées par le personnel de la bibliothèque et on a des fiches individuelles par personne. Le deuxième édit, qui est la source importante, indique qu'on doit mentionner sur la fiche individuelle une éventuelle hypothèque générale au profit de l'État sur les biens des personnes. Ça, c'est lié à des choses plus lointaines, qui sont liées à la manière dont l'État romain finance son administration. Le deuxième point, c'est que les notaires ont obligation légale de consulter d'abord la bibliothèque des athées avant de rédiger un contrat qui concerne des terres ou des maisons. C'est-à-dire que si on veut vendre une terre, ou si on veut hypothéquer une terre, le notaire doit d'abord consulter la bibliothèque des athées avant de pouvoir faire le contrat. Donc concrètement, quand un créancier reçoit une hypothèque pour garantir un prêt sur une terre, il est certain que la terre n'a pas déjà hypothéqué, qu'elle appartient bien aux débiteurs, que sa femme n'a pas le droit dessus, que ses enfants n'ont pas le droit dessus. Donc il est aussi certain qu'on peut l'être, que sa garantie est solide. Donc maintenant, grâce à cette institution, il a une assurance publique sur la solvabilité du débiteur, quelque chose qui n'existait pas avant. Et c'est le débiteur quel qu'il soit. Il ne peut absolument pas connaître le débiteur auquel il va prêter, il a quand même le système qu'on fera malgré tout. Donc maintenant, on peut prêter à n'importe qui. Avant, on prêtait à des gens qu'on connaissait. Maintenant, on peut prêter à n'importe qui. Et du coup, la relation de crédit peut se dépersonnaliser. Elle n'est plus uniquement tributaire des biens sociaux dans le village, elle repose sur une institution garantie par l'État. Donc, on comprend mieux les trois changements que j'ai décrits tout à l'heure. C'est-à-dire que les marchés locaux s'ouvrent sur l'extérieur parce que c'est plus fondé sur la reconnaissance personnelle. On peut aller prêter ou aller emprunter à des gens beaucoup plus facilement. Le cadre des gens à qui on peut prêter ou emprunter, c'est large. Et c'est aussi plus facile de prêter des sommes importantes parce qu'on a un système qui garantit les hypothèques sur les terres et les maisons. Donc, en matière de crédit, on peut imaginer deux logiques extrêmes. Alors, en gros, celle de la première période, c'est uniquement personnel, et la seconde, où il y a un système public qui garantit les garanties. Si on veut. Les deux logiques sont complémentaires. Il ne faut pas opposer l'une à l'autre, parce que même durant la deuxième période, il y a encore un certain nombre de transactions qui se font suivant la première logique. C'est-à-dire qu'il y a encore des petites transactions qui se font au sein du village avec des gens qu'on connaît plus ou moins bien. Donc ça marche aussi. Ce que je veux dire, c'est que pour atteindre un deuxième niveau de crédit, la bibliothèque des athées est nécessaire. On n'a pas de toute façon toujours besoin de ce niveau de crédit au sein des villages. Ils peuvent continuer à rentrer. Donc les deux sont complémentaires. Il y a on veut un premier système qui est fondé sur la connaissance personnelle, mais qui est complété par les athées, qui n'est pas remplacé par la bibliothèque des athées. Ça vient juste compléter. Donc cette institution, c'est vraiment celle qui change le plus profondément le marché du crédit en Égypte romaine. Il y a vraiment un avant 69 après Jésus-Christ et un après 69 après Jésus-Christ. Si on peut être aussi précis, c'est qu'on connaît la date à quelques années près de la fondation de la bibliothèque des athées, et aussi que tous les contrats sont datés en Égypte romaine, ce qui est rarement le cas dans les sources en fait. On a rarement des datations. Et il y a aussi, pour reparler de l'océan dans lequel je devais parler, l'opposition entre formel et informel. Je pensais aussi que entre 30 avant Jésus-Christ et 69 après, le crédit fonctionne essentiellement sur des institutions informelles, c'est-à-dire les réputations financières des gens, leur réputation mobilière. Alors que la bibliothèque des athées est une institution informelle dans la mesure où elle est mise en place par l'État, garantie par l'État. Voilà.
Merci beaucoup de cette concision. Est-ce que je pensais que c'était bien de tout de suite donner la parole à François Menon pour qu'on ait vraiment une discussion générale parce que.
Et bon, ça ne vous empêchera pas de revenir sur des points précis qui vous auraient troublé dans le premier ou dans le deuxième exposé au cours de la discussion.